Claude Askolovitch, bonjour.
Bonjour Nicolas.
La face cachée, Claude, de la guerre contre Daesh, c'est dans le New York Times.
Oui, dans le New York Times, vous pourrez lire ça sur Internet. Le New York Times qui publie une enquête journalistique impitoyable, mais qui se lit comme un roman funèbre. Elle s'appelle The Uncounted, littéralement, ceux que l'on n'a pas compté, ceux qui ne comptent pas. Ce sont les civils irakiens tués par la coalition dans les bombardements de la reconquête, des morts, des dégâts collatéraux que la coalition ignore, cache, nous dissimule et se dissimule à elle-même. Le New York Times a passé 18 mois à enquêter en Irak. Il est retourné sur 150 sites de bombardement. Il a rencontré des centaines de témoins. Il a comparé le New York Times, les documents et la propagande de l'armée américaine à la réalité des sites bombardés. Conclusion horrible, les pertes civiles sont 31 fois supérieures aux chiffres officiels et la plupart des bombardements ciblés ont été décidés sur la foi de renseignements vagues ou périmés. L'enquête est impitoyable. Elle est aussi incarnée par un homme lourd dont la vie a été détruite. Il s'appelle Bassim Razo. Le 22 septembre 2015, la coalition publiait sur YouTube, parce qu'on publie cela sur YouTube, une vidéo en noir et blanc aux accents de victoire, un site de Daesh détruit par une frappe de la coalition. Dans la réalité, ces bâtiments étaient les villas de Bassim et de son frère, deux grands bourgeois de Mossoul qui se protégeaient chez eux en autarcie en attendant la fin de l'État islamique. Les Razo ne savaient pas que leur demeure était répertoriée dans l'état-major allié comme des appartements de l'État islamique. Ils ne savaient pas que des drones les avaient filmés. Ils ne pouvaient pas imaginer le tissu de bêtises qui allait conduire à leur catastrophe. Le New York Times publie des extraits du rapport d'espionnage des maisons des Razo. Je cite « Aucune activité hostile n'est observée. On ne voit pas d'armes. Mais les combattants de ISIS ne brandissent pas ostensiblement des armes. » Voilà. Sur la foi de ces idioties, Bassim a perdu son frère, sa femme, sa fille et un neveu. Et il a survécu pour obtenir pas seulement justice, mais sauvegarde, parce qu'il fallait que la coalition reconnaisse qu'elle s'était trompée pour que lui ne soit pas pris dans Mossoul libéré pour un homme de l'État islamique. Il eut de la chance, si l'on ose dire. Ce bourgeois éclairé avait vécu aux États-Unis. Une de ses cousines par alliance est une universitaire américaine. Il nous ressemble. Il a donc compté les Uncounted donc. Vous pouvez le lire sur Internet, sur le site du New York Times, en attendant que cet article soit traduit. Parfois, Nicolas, les journaux sont glaçants, mais c'est leur rôle. Si vous en avez encore le courage, vous lirez dans l'Humanité le témoignage d'un enfant africain réfugié en France. Il s'appelle Moussa. Il a 17 ans. Il a été recueilli en mer en février dernier après avoir quitté la Libye. Avant le bateau, il avait été battu, emprisonné, traité en esclave et violé. Il est désormais chez nous, apprenti boulanger. L'Humanité publie son témoignage, écrit en caractère sage sur un cahier d'écolier. Il guérira, on guérit de tout.
Et puis on parle de la République en marche, Claude, dans les journaux.
Qui se réunit en congrès et Ouest-France en fait un dessin qui va nous épargner bien des analyses politiques. On voit un petit théâtre de Guignol où Emmanuel Macron agite une marionnette barbue devant un public d'adultes infantilisés qui crie « C'est Christophe ! C'est Christophe !» Et il n'y a rien d'autre à dire sur l'intronisation de Christophe Castaner à la tête du parti du président. Sont-ils donc des enfants, ces militants de la République en marche, qui ne peuvent même pas voter pour choisir le chef? L'Obs, dans une longue enquête, décrit ce que prétend devenir le parti macronien, une gigantesque association qui va prendre la société en charge, qui organisera des projets citoyens, nettoyer les rives des cours d'eau, encadrer des réfugiés, réinsérer des jeunes, faire de l'aide aux devoirs, c'est ainsi que l'on occupe les militants. L'Obs raconte le maire LREM, République en marche, de Vaux-le-Pénil en Seine-et-Marne. Il a organisé des chauffeurs bénévoles et des babysitters bénévoles pour que personnes âgées et jeunes parents puissent aller au cinéma municipal dont la fréquentation déclinait. Est-ce cela la politique désormais? Faut-il, comme le dit Le Point, devenir un parti liquide? Le modèle du parti comme organisation communautaire nous vient des États-Unis et après tout, toutes les formations politiques, c'est dans la croix, se cherchent. Cela dit, la politique est aussi une permanence. Ouvrez donc Nicolas Paris Match et vous verrez un reportage exclusif et organisé sur Emmanuel Macron, son avion présidentiel. Un si bel homme avec femme et ministre et conseiller pimpant que l'on photographie dans une puissance souriante pendant que les militants réparent les cinémas. Voilà l'image du pouvoir, mais on lira avec plaisir dans Le Progrès que le macronisme fait prospérer une petite entreprise d'Oyonnax dans l'Ain, la maison Bruot, qui fabrique les petites boules à neige Macron. Vous savez, Nicolas, ces petits objets de cheminée que l'on retourne pour voir de la neige avec un président à l'intérieur. Voilà donc ce qu'est le pouvoir, un produit dérivé.
Deux hommes de mots, enfin, Claude.
Kamel Daoud, d'abord, votre collègue Philippe Solers, il signe dans Le Point un très très beau texte, Kamel Daoud, sur l'Algérie, son pays, un pays flou, invisible, zombie, vaste et fascinant. Le Point a traversé la Méditerranée pour un très bon dossier sur ce pays, l'Algérie, qui nous renvoie à la question du pouvoir, parce que là-bas, le pouvoir physiquement a disparu et une société bouge, se réinvente, fait des start-up et s'impatiente en attendant que disparaisse vraiment le vétéran Bouteflika, octogénaire, en fauteuil et invisible. Mais on écrit aussi en Algérie, pas seulement Kamel Daoud, et un pays qui écrit a de la chance. L'autre homme, il est dans GQ, mensuel masculin, c'est l'acteur et cinéaste Mathieu Kassovitz, qui raconte bellement sa transmutation en boxeur pour un rôle d'abord et après pour la vérité de ce sport qui lui fait payer au prix fort le cannabis qu'il s'obstine à consommer quinquagénaire. Parole de Kassovitz, un mec qui monte sur un ring, on ne peut rien lui dire. Autre parole de Kassovitz, de 20 à 30 ans, on est bien, on baisse comme des dieux, on a un cardio de dingue. Oui, mais après, bien lui a conjuré le bide en se prenant ce qu'il appelle des KO foie, des coups au foie qui vous mènent KO. Et il sait maintenant, Kassovitz, que les Rocky, c'était bidon. Va le dire à Stallone, Mathieu. Nous aborderons le week-end en cette vérité virile.
Claude Askolovitch, merci. Comme tous les vendredis, juste avant 9h, on aura le plaisir de retrouver François Morel. Bonjour François.
Bonjour, j'avais parlé de Jean, je vais évoquer Robert.
À tout à l'heure, 8h38, on retrouve Philippe Solers dans quelques instants. Vos questions au 01 45 24 7000.